gouvernement camerounais face à ce qu'on a pu voir et aussi à ce que l'ONU demande, à savoir une enquête. Également, les États-Unis se sont mêlés et demandent d'avoir plus de respect des droits de l'homme. Que répond le gouvernement camerounais ? Monsieur le ministre, je ne vous entends pas.
Allô ?
Oui, bonsoir.
Non, je vous entends, vous m'entendez ?
Parfaitement, vous êtes même en direct.
Très bien, madame, je vous remercie de me prendre et de me donner l'opportunité de prendre part à votre débat.
C'est très important pour nous. Alors, quel est votre...
Alors, je vous écoute.
Alors, quelle est, la réponse du gouvernement face à la demande de l'ONU d'une enquête concernant les pertes humaines de dimanche dernier? Les États-Unis également sont également concernés et demandent au gouvernement camerounais de limiter l'emploi de la force et de respecter les droits de l'homme. Que répond le gouvernement camerounais, monsieur le ministre?
S'agissant maintenant de la requête des Nations Unies et des États-Unis vis-à-vis de l'État du Cameroun, c'est par les canaux diplomatiques que de telles démarches vont aboutir au niveau du gouvernement. Et le moment venu, naturellement, le gouvernement donnera sa réponse, donnera sa position par rapport à ces deux requêtes. Pour ce qui est de la retenue et autres, lorsque nos forces de défense et de sécurité se sont rendues sur place, c'est conformément aux dispositions constitutionnelles de notre nation, disposition qui demande à la nation de protéger les hommes et leurs biens et de protéger l'ordre public. La deuxième chose, c'est que nos forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions de faire preuve de retenue, de courage et de protéger la vie des hommes et de leurs biens. Madame, c'est ce qui s'est passé.
Alors nous
maintenant,
avons...
dans le cadre de la communication gouvernementale que j'ai eu à donner, j'ai annoncé qu'il y avait une dizaine de morts, dont 5 prisonniers parce qu'ils ont mis le feu dans leur prison, et nos soldats, pour avoir été attaqués par des armes en face, au nom du droit de la légitime défense, ils ont réagi et malheureusement 5 Camerounais sont tombés. Nous avons donc annoncé au nom du gouvernement qu'il y avait une dizaine de morts. Voilà, madame.
Alors vous parlez de légitime défense. Le président Paul Biya condamne également toute violence. Néanmoins, les rapports d'International Crisis Group ont état de couvre-feu, d'interruption prolongée d'Internet. Y a-t-il une volonté du gouvernement de stopper les revendications des indépendantistes ?
Madame, le président Biya est dépositaire de la Constitution de la Nation. La responsabilité, c'est de faire en sorte que les lois de la République soient respectées. Le président Biya est prêt à recevoir quiconque dans le cadre du respect des lois et de la Constitution de la Nation, quiconque formule des attentes et des demandes qui se trouvent conformes à nos lois. Mais qu'on ne lui demande pas de sortir de la loi et du cadre constitutionnel tel qu'il existe, madame. Sauf si vous voulez le pousser à être hors la loi, qu'il cesse d'être garant et dépositaire de la Constitution.
Non, ce n'est pas mon but. Je vais faire également intervenir vous, monsieur Herbert Beau. Vous faites partie donc de ceux qui souhaitent l'ambazonie. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous faire entendre?
On ira jusqu'au bout. Il y a une nation qui est née, ou il y a renaissance d'une nation qui existait, une nation qui a obtenu l'indépendance devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 avril 1961. Cette nation-là, il y a eu 64 pays qui ont voté pour notre indépendance. Il y a 23 votes contre et 10 abstentions. Et la résolution que nous avons obtenue pour l'indépendance, elle est exactement la même résolution qu'a obtenue Israël, la résolution 181 pour laquelle il y avait 23 votes oui. Et je voudrais également préciser que monsieur le ministre vient de raconter une fois de plus toute la propagande et les mensonges du gouvernement. La toute première chose, c'est qu'il y a eu plus de 100 morts au Cameroun, qu'il y a eu plusieurs personnes.
Par rapport au plus de 100 morts, on va vérifier auprès de Hans, qui donc a fait aussi des recherches. Est-ce que monsieur, est-ce que vous confirmez, Hans de Marie, qu'il y a eu une centaine de morts? Car ce n'est pas les mêmes chiffres entre 100 et 10 morts, mais est-ce que vous confirmez ces chiffres?
Vous me posez la question à moi ou bien à quelqu'un d'autre, madame, à moi?
Non, pas à vous, monsieur, à Hans, qui est donc International Crisis Group.
Okay. J'étais disant que malheureusement, nos équipes sur le terrain ne sont pas en mesure de confirmer ces chiffres-là, qui ont été aussi été avancés par une ONG camerounaise. Nous, pour l'instant, nous n'avons plus retrouvé que 32 noms de victimes identifiables.
Alors, nous n'allons pas spéculer sur des chiffres et sur des personnes ayant perdu la vie. Nous avons reçu entre-temps notre second invité. Donc, bonsoir, vous êtes là pour la première fois, Pekki Sandiata Pene. Vous êtes également activiste camerounais. Alors, je reviens vers vous, Herbert Beau, avant de redonner la parole à M. le ministre. Votre gouvernement, 1961, n'est pas reconnu aujourd'hui, internationalement parlant. Quel État pouvez-vous avoir qui n'est pas reconnu l'Ambazonie ? Comment pourriez-vous mener cet État ?
Nous vivons une recolonisation de l'Ambazonie par le Cameroun. Je vous signale que les deux territoires étaient chacun conduits. Les Nations Unies acceptaient les deux territoires, la partie francophone et la partie anglophone, à l'indépendance. Nous l'avons obtenu et nous avons géré. Les Nations Unies ont mis en place deux États égaux. Nous avons pu avoir un gouvernement qui gérait Boya, la partie anglophone, de 61 à 72, et il y avait un gouvernement qui gérait la partie francophone, de 61 à 72. Mais il s'est fait que le pouvoir Yaoundé, dictatorial comme il est, a décidé de recoloniser notre partie du pays. Les revendications dont nous parlons aujourd'hui ne viennent pas depuis un an. Les anglophones se sont regroupés depuis le All Anglophone Conference, ça s'est tenu en 93, en 94. Nous avons posé ces revendications
Le problème de la langue.
Par rapport à la reconnaissance, je vous rappelle que les États-Unis, lorsqu'ils ont déclaré leur indépendance en 1776, ils n'ont pas été reconnus immédiatement. Plus d'un an et demi après, c'est là où le Maroc est devenu le premier royaume à reconnaître les États-Unis.
Monsieur le ministre, est-ce que quelque part la nouvelle commission, qui est donc pour le bilinguisme et le multiculturalisme, n'est pas également une réponse pour l'unité du Cameroun ?
Madame, je voudrais d'abord m'inscrire en faux contre...
Je vous en prie, c'est un débat, donc je vous en prie, exprimez-vous.
Oui, je voudrais m'exprimer parce que je vous ai dit que je devais être tout de suite à une rencontre diplomatique, madame.
Je vous en prie. Je vous en prie,
allez-y. Je m'inscris pour toutes les allocations mensongères dont l'objet est de vous inviter à faire. C'est les Nations Unies qui ont organisé le référendum à l'occasion duquel nos compatriotes ont choisi de se rattacher au Cameroun. On leur a posé la question de savoir, voulez-vous vous rattacher au Cameroun ou au Nigeria ? Jamais on ne leur a posé la question de savoir s'ils voulaient être autonomes ou indépendants, madame. Et c'est les Nations Unies, organisateurs de cette rencontre, qui se portent garant de sa réalisation, de son effectivité.
C'est une réalité.
Il faudrait donc que nous soyons tous au même niveau. Il y a donc une contre-vérité qui a été servie par mes compatriotes que j'aime bien parce que je ne désespère pas de ce qu'ils reviennent à la raison. La deuxième vérité que je voudrais vous asséner au nom du gouvernement, il n'y aura jamais de constitution de la nation camerounaise. Cette chose-là est ancrée et c'est un héritage que les pères fondateurs de la nation nous ont légué. Il est question de le conserver, de l'améliorer et de le léguer à la prochaine génération. Consultez les historiens, ils vous diront que tout ce qui vient d'être raconté par mes deux compatriotes, c'est de vérité. Ils n'ont jamais eu d'indépendance.
Merci,
jamais,
monsieur
madame,
le ministre.
Jamais.
Merci, monsieur le ministre, pour vos précisions.
Et à leur intention, je dis que jamais il n'y aura de sécession au Cameroun, jamais. En revanche, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'autorise la Constitution, tout ce qui peut être obtenu autour d'une table, le président Biya est prêt. La nation camerounaise en cela le soutient. Et c'est une infime minorité d'agités, assoiffés de pouvoir, mis par une boulimie de pouvoir aujourd'hui qu'il s'agit. C'est mes compagnons, c'est mes frères, je les connais, on se connaît. De ma foi, nous nous battrons pour que ce pays reste uni.
Merci,
mais dans
monsieur
le droit,
ministre.
Dans la justice. Voilà, madame.
Merci, monsieur le ministre. Nous avons donc un autre invité. Vous n'avez pas pu prendre la parole auparavant. Vous êtes activiste camerounais. Je rappelle que vous vous appelez Pene Sandiata. Et vous avez un autre discours. Vous ne souhaitez pas la séparation de la sécession. C'est bien ça ?
Absolument pas. Tout d'abord, je vais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant ici.
Je vous demande d'être concis pour cette première intervention, car on va bientôt prendre une petite pause.
D'accord, j'essaierai d'être le plus concis possible. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'on est les uns et les autres. Il y a une manifestation au Cameroun dimanche dernier quand... les partisans de l'indépendance de l'Amazonie, entre guillemets, ont organisé des manifestations. Chaque fois qu'il y a mort d'homme, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Nous ne souhaiterions pas que les organisations, je veux dire la communauté internationale, les Nations Unies y compris, aillent vite en besogne. Je crois que le Cameroun est un pays qui a une constitution, qui a des lois, et que chaque fois qu'une situation pareille arrive, il y en a pour une investigation interne. Si maintenant l'investigation, les enquêtes ne mènent pas à un résultat satisfaisant, maintenant nous pouvons commencer à critiquer. Mais pour l'instant, je crois qu'en 3 ou 4 jours, c'est un peu trop tôt pour pouvoir critiquer, je veux dire, ce que les autorités font. Et maintenant, j'aimerais rebondir sur ce que mon compatriote Bo Ever a dit tantôt. Le Cameroun ne commence pas en 1961. Le Cameroun a une histoire qui commence en 1884, le Cameroun en tant qu'institution.
Par rapport à l'histoire, c'est quelque chose qui est assez long à expliquer. Donc avant qu'on puisse poursuivre, on va prendre la température sur la toile, car de nombreuses personnes ont souhaité apporter leur apport. C'est le cas de Mamadou Mota au Cameroun. Il explique que le régime en place a poussé les modérés plus nombreux dans les mains des radicaux, qu'ils appellent sécessionnistes ou terroristes. Ceux qui manifestaient au début ne réclamaient pas la sécession. Personne au Cameroun n'acceptera la sécession, mais le gouvernement, par sa gestion calamiteuse de cette crise, pousse les gens à bout. Du côté du Tchad, avec Guillaume B. Valentin, si le gouvernement camerounais en a la volonté, il peut sortir de cette crise avec ce dialogue, sans les armes et sans l'aide de la communauté internationale. Diviser le Cameroun n'est pas une bonne vision pour l'Afrique. L'exemple du Soudan n'est pas à copier. Et on a également un autre avis du Tchad, celui d'Ahmed Ben Bella. Pourquoi les régions anglophones du Cameroun provoquent le régime en place? Les colons n'ont pas manqué de demander aux leaders des choix en 1961 entre le Cameroun et le Nigeria. Leur lutte ne va pas aboutir. Je vous demande votre réaction à cela juste après une courte pause. Alors nous sommes toujours en direct, vous avez la possibilité de donner votre avis concernant les réflexions Facebook qu'on a pu avoir, les réactions. Qu'en pensez-vous? Puisque finalement on parle du choix que le Cameroun a pu avoir en 1961, comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter là-dessus?
Et comme je disais tantôt, le Cameroun ne commence pas en 1961. Le Cameroun commence déjà, en tant que pays, en 1884. Et après que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a mis le Cameroun, qui était la colonie allemande, sous tutelle française et anglaise.
Mais beaucoup de gens
l'ont déjà dit.
Le savent. Après, effectivement, on peut vraiment donner les détails. Mais aujourd'hui, vous, votre regard en tant que citoyen camerounais aux États-Unis, comment pouvez-vous avoir un optimisme pour l'avenir? Comment vous voyez les choses?
Aujourd'hui, j'ai plutôt une autre lecture de la situation. Je pense qu'il y a une situation au Cameroun, c'est une situation de désespoir. Et cette situation de désespoir est récupérée par des personnes qui, depuis quelques années, depuis pratiquement 2 ou 3 décennies, demandent la sécession de la partie anglophone du Cameroun, qu'ils appellent l'Ambazonie. J'étais au Cameroun au mois de juillet dernier. Les conditions de vie des citoyens ne sont pas les plus, je vais dire, idéal. Par exemple, le trajet, bon, faut s'en bavarder, d'accord, on faisait à l'époque en 3 heures du temps, en 30 minutes, aujourd'hui, c'est fait en 3 heures du temps, parce que les conditions de rue sont impensables. Je crois que la population est profondément frustrée, et la population a besoin des meilleures conditions de vie. Maintenant, la National Council of Southern Cameroun, qui a toujours voulu l'autonomie ou bien l'indépendance de la région anglophone du Cameroun, profite de cette situation pour pouvoir offrir une solution à la population qui a besoin d'amélioration des conditions de vie.
Alors la solution à la population, avant qu'on poursuive, on va écouter un micro-trottoir qui montre combien la population camerounaise est divisée sur le sujet.
Jamais je ne peux être pour la division du Cameroun, sauf qu'il y a des problèmes internes.
La division d'un pays n'est pas le partage peut-être d'un morceau de plantain à la maison qui concerne juste une famille.
Si le fédéralisme est effectivement adopté, cela permettra aux populations du nord-ouest et du sud-ouest de préserver leur culture.
Nos frères partent anglophones. S'ils arrivent à ce niveau, c'est tout simplement parce qu'ils veulent qu'on mette en application la Constitution de la République.
Bon, c'est pas un groupuscule de personnes, c'est-à-dire ceux qui sont supposés être du nord-ouest ou du sud-ouest, qui doivent demander la division du Cameroun. C'est tout un pays, c'est tout le Cameroun qui est concerné.
Whenever.
Chaque fois que la loi n'est pas dans leur faveur, ils la tordent dans tous les sens pour qu'elle le soit. Alors ce sont eux qui ne respectent pas la loi.
Si nous avons cette paix, c'est un acquis. C'est à nous Camerounais de conserver, d'être contre eux. Contre ceux qui sont pour la sécession de notre pays.
Il devrait inviter tous les acteurs impliqués à s'asseoir à la même table pour délibérer et proposer des solutions qui vont dans l'intérêt de ce pays.
En réalité, ça veut dire un problème pas difficile, mais impossible, vu le fait que le Cameroun est un État reconnu au niveau international.
La Fédération a échoué de 1961 à 1972, la République unie de 1972 à 1984, la République de 1984 à nos jours. L'indépendance est donc la meilleure solution.
Ange de Marie, vous êtes toujours avec nous à Nairobi. Selon vous, quelles seraient les possibilités, quelles seraient les chances du Cameroun de sortir de cette crise ?
Permettez-moi déjà en une minute de réagir sur quelques éléments que vous avez diffusés en antenne en disant qu'il y a un devoir d'objectivité qui s'impose à nous. Le premier devoir d'objectivité est d'éviter la propagande mais aussi le révisionnisme historique. Il est vrai que les choix qui ont été proposés aux anglophones en 1961 c'était de rejoindre soit le Cameroun francophone, soit alors le Nigeria. Mais c'est là le but du problème, parce que tous les travaux sérieux, si je cite par exemple le site de Ekoné et de Nyamjo, montrent que en ce moment, les aspirations de la population étaient d'être un État indépendant. Il y a donc eu en quelque sorte un vol des aspirations de la population, et c'est à partir de cela que le malaise anglophone s'est constitué. Ce malaise s'est davantage développé à partir du moment où la partie anglophone arrivait à ce qui a été appelé la conférence de Fontaine, avec la perspective d'avoir une fédération égalitaire. Mais le pouvoir de l'époque, celui du président Anjou, a organisé les choses de sorte que la quasi-totalité des pouvoirs soit dévolue à l'État fédéral. Et donc on avait, de fait, une fédération bancale. Dans l'évolution historique actuellement, il y a eu une érosion de ce qu'on peut comme le corpus de la constitution des hérités des Britanniques. Voilà là les ferments où provient la crise en Europe et qui font en sorte que depuis toujours, il y a eu une espèce de sentiment de colère enfoui dans les cœurs des populations en Europe. Cela explique d'ailleurs pourquoi il a été quelque peu aidé sous les processus.
Alors vous parlez de sentiment de colère, Anse de Marie, vous parlez de sentiment de colère. Herbert Beau, justement, les sécessionnistes ont pensé à un autre drapeau, à un autre hymne national. Est-ce par colère? Est-ce parce que vous êtes en désaccord total avec le Cameroun? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, ne nous faites pas porter la colère. La colère, elle appartient au gouvernement. La vengeance appartient au gouvernement. La sauvagerie appartient au gouvernement. Nous n'avons pas de colère. Nous avons le droit de notre côté. Nous avons l'histoire de notre côté. Nous avons un système qui nous a lésés, que ce soit les Nations Unies, la communauté internationale, que ce soit le Cameroun. Et nous rejetons la recolonisation du peuple Southern Cameroun par le peuple francophone du Cameroun. Nous en avons le droit. Et pour tous ceux qui disent qu'il n'existera jamais un autre pays, je vous rappelle que depuis 1990, il y a plus de 36 pays qui sont nés. Qui sont nés depuis 90 seulement. Et il y a, vous pouvez dire que lorsque l'Éthiopie faisait face à l'Érythrée, disait également ce que dit Yaoundé aujourd'hui. Mais malheureusement, nous allons arriver à l'état de l'Amazonie, nous allons arriver à la reconnaissance de l'état de l'Amazonie,
parce que je ne peux pas
savoir comment est-ce que les Américains anglophones vivraient dans un pays où tout le monde est poussé à parler l'espagnol.
Justement, avant d'arriver à l'Amazonie, et puisqu'on peut parler même de paix, est-ce que la paix ne passerait pas, par exemple, par la langue? Est-ce que le fait que dans certaines zones, on ne parle pas forcément anglais, ou c'est ce que reproche aussi une partie de la zone anglophone, est-ce que ça ne peut pas passer également par la langue?
La chose la plus importante, c'est de comprendre. Pourquoi est-ce que nous sommes dans notre droit de le revendiquer? Il appartient à tout peuple.
Mais est-ce qu'on peut passer par la langue pour arriver à la paix? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suppose que vous me posez une question et que j'avais le droit de réagir à la question, mais.
Oui, parce qu'on part en arrière encore, donc c'est pour ça que je demande si ça
non, je
ne
parlais pas en arrière, je donne une réponse dont j'ai le droit.
Bien sûr, c'est un dialogue et un débat.
Donc, vous semblez vouloir m'imposer un choix de réponse.
Si vous le permettez, mon frère. Je pense personnellement que diviser les pays africains sur des bases d'héritage coloniaux, quelque chose d'extrêmement grave. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des Camerounais d'expression anglaise, des Camerounais d'expression française. Si ces deux peuples doivent se diviser, alors que foncièrement, quand vous regardez par exemple la population du sud-ouest, elle constitue une grande partie des Sahrois, tout comme les populations côtières du littoral, ils ont beaucoup plus d'unicité que la langue anglaise ou française qui parle des deux côtés. Quand vous allez à l'ouest, par exemple, 200 langues, mais à la base, il y a une certaine unicité. Quand vous allez par exemple du côté de l'ouest, vous voyez que les frères du nord-ouest et les frères de l'ouest de Bamileke sont beaucoup plus, je vais dire, liés culturellement. Et que cet élément, qui n'est que la langue héritée de la colonisation, vient être le facteur de division, est quelque chose d'extrêmement grave. Parce
qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, puisque vous n'êtes pas pour la séparation?
Non, loin de là.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous?
Ce qu'il faudrait, c'est que le Cameroun soit bien dirigé et que les Camerounais soient à l'aise, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et maintenant, comme je disais tantôt.
C'est pas un problème de langue.
C'est une question que je posais, une suggestion.
Il y a des organisations qui existaient au Cameroun depuis très longtemps, qui sont en train de profiter de la frustration de la population qui souffre parce que le pays est mal dirigé pour pouvoir les orienter vers une voie qui, selon moi, est suicidaire.
Je voulais intervenir là pour dire, corriger d'abord une première chose. On parle du Cameroun qui existe depuis 1884. Oui. C'est le Cameroun allemand. À ce Cameroun a été rattaché le Gabon, le Tchad, la Centrafrique et tout. Donc on est dans l'ère de Hitler là. Ils veulent le reconquérir. C'est l'expansionnisme de Yaoundé. C'est ça qu'on nous explique. Le ministre venait de dire tout à l'heure qu'il n'y a eu jamais d'indépendance. Alors nous sommes un peuple colonisé. Il le reconnaît donc. Donc s'il n'y a pas eu de décolonisation, qu'on en arrive là. Il ne doit pas avoir un peuple qui ne soit pas décolonisé. Et nous avons le droit. Dans ce Cameroun-là, j'étais ancien reporter de sport, et dans ce Cameroun-là, les équipes de football peuvent poser un drapeau. Ils ont des hymnes, ok? Les écoles ont des hymnes. Mais tout un peuple, à lui, on lui refuse. On a créé, il parlait tout à l'heure de 61 et de l'accord qui a été arrêté avec les Nations Unies, de deux États égaux. Comment se fait-il que l'autre État plus égal que l'autre? Comment se fait-il qu'eux, ils peuvent avoir un drapeau, nous ne pouvons pas l'avoir? Ils peuvent avoir un hymne, nous ne pouvons pas l'avoir. Ils peuvent gérer le pays comme ils veulent, nous ne pouvons pas l'avoir. Au nom de quoi? Au nom de la colonisation? Nous la rejetons.
En tout cas, sur le plateau, personne n'a parlé de colonisation, mais est-ce qu'on peut être optimiste au vu de ce que vous dites pour l'avenir du Cameroun?
Nous, on est très optimistes parce que notre peuple ne baissera jamais de bras. Mm-hmm. Ils vont nous tuer tous, comme chantent nos peuples. On va reprendre là où on a commencé. On va aller jusqu'au bout. Il y aura une nation de l'Amazonie parce que nous le souhaitons, parce que c'est notre volonté et parce que le peuple est souverain.
Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, l'Ambazonie, pourquoi ce nom? Est-ce en rapport avec l'Amba?
C'est en rapport avec le B de Ambas, mm-hmm. qui est tout à côté de Limbé. Une dernière chose, le Cameroun, là, uni, là, et unifié, là, c'est un Cameroun qui était déjà une partie de la France, avant de se détacher, comme les États-Unis, partie de l'Angleterre. Ne va pas créer l'unité.
Je voulais rebondir très rapidement pour dire que la voie que nous sommes en train de prendre est extrêmement dangereuse, parce que si demain les Camerounais de confession musulmane décident que parce qu'ils sont musulmans, ils doivent avoir un État indépendant, ou si les Camerounais, par exemple, quelconque culture, décident que parce qu'ils sont Bamileke ou Sahrois ou Métis, doivent avoir un État, ce serait extrêmement dangereux. Nous devons travailler pour la cohésion nationale et résoudre ensemble nos problèmes.
Comme quoi plusieurs personnes activistes de ports différents et camerounaises peuvent échanger. Donc merci beaucoup d'avoir été nos invités.
Merci
également à nos invités qui étaient au téléphone, monsieur le ministre, et à vous, Hans, pour votre participation. Merci pour votre fidélité, à vous, chers téléspectateurs. Un clin d'œil à toute l'équipe technique, ainsi qu'à RTN TV qui diffuse Washington Forum à Babenda, au Cameroun. Excellente soirée à vous.